Mes bien chers amis, le président des États-Unis, M. Johnson, a fait savoir qu'il ira cette année en Russie soviétique visiter le successeur de Nikita Khrushchev, M. Kosygin, premier ministre de ce pays. Sans doute, M. Kosygin sera invité à rendre la visite aux États-Unis. Ce qui s'est fait dans ce sens il y a quelques années devrait avoir appris aux Occidentaux que ces visites contribuent surtout à l'avancement de la conspiration communiste dans le monde. Illusion aussi de penser que les dissensions sur les méthodes entre les maîtres de la Chine rouge et ceux du Kremlin empêchent leur poursuite commune de l'objectif communiste qui est la domination sur le monde entier. Le gouvernement américain a déjà donné la même illusion lors des dissensions apparentes entre Tito de la Yougoslavie et Staline puis Khrushchev. En octobre 1962, le président Kennedy recevait ce Tito à Washington avec grand honneur. Le passé du personnage ne pouvait pourtant laisser aucun doute sur ses convictions ultra-communistes et son absence de tout principe au service de cette cause. Tito s'appelait autrefois Joseph Broz. Dès 1917, encore jeune, il s'enrôle dans l'armée rouge de Trotsky. En 1920, il joint définitivement le Parti communiste de Moscou. En 1936, il est à Paris, recrutant des volontaires pour les brigades communistes qui combattent le libérateur Franco en Espagne. Vient la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands envahissent et occupent la Yougoslavie. Broz ne bouge pas. C'est une autre, un patriote, Mikhailovitch, qui se met à la tête de la résistance, reconnu par les Alliés. Mais lorsque Hitler porte la guerre contre la Russie, le communiste Joseph Broz, devenu Tito, entre en action. Et ses premiers actes sont de lever des courtises des partisans communistes et d'attaquer le patriote Mikhailovitch. Ayant à faire un choix entre les deux camps pour l'aide à la Yougoslavie, Roosevelt et Churchill décident, pour quelle raison, d'abandonner Mikhailovitch et de reconnaître et soutenir Tito. Avec cet appui, Tito réussit à capturer Mikhailovitch et le fait fusiller. C'est ainsi qu'après la guerre, par suite du choix de Roosevelt et de Churchill, on aura une Yougoslavie gouvernée par le communiste Tito, au lieu de l'être par le grand patriote authentique Mikhailovitch. La prétendue chicane surgit en 1950 entre Tito et les chefs de Moscou n'a été qu'une farce pour faire croire aux Occidentaux qu'ils avaient une alliée potentielle dans Tito, et cela a permis au communiste Tito d'obtenir des États-Unis une aide de 2,5 milliards de dollars en 10 ans. Les dindons de la farce ont dû faire une moue devant la déclaration de Tito en mai 1963, quand il disait « Nous, communistes, ne devons jamais perdre de vue que nous représentons un mouvement international et rien d'autre. L'amitié entre le Kremlin et Belgrade est une amitié éternelle. » Cela n'a point empêché Washington d'accueillir royalement Tito en l'anniversaire même de l'écrasement du soulèvement de la Hongrie sous les chars d'assaut de Khrushchev, l'ami éternel de Tito. Tito est, comme fut Khrushchev, un assassin de grande classe. 300 prêtres furent mis à mort pendant les 15 premiers mois de son administration. Des ministres de tout culte, prêtres, religieux, mahométans, chrétiens, ont été mis à mort froidement pour nulle autre raison que la pratique de leur foi. Des milliers ont été jetés en prison sur des accusations forgées et nombre d'entre eux y meurent lentement aujourd'hui encore ignorés du monde libre. On sait que le cardinal Stepinac fut condamné à 16 ans de travaux forcés et, malade, il fut tenu en résidence surveillée, ne pouvant faire deux pas que sous les yeux de la police de Tito. Il en mourut. Par ailleurs, écoles religieuses, collèges, séminaires, asiles ont été confisqués. 70 publications religieuses interdites. Tito voudrait anéantir toute pensée qui n'est pas communiste. En 5 mois, de mai à août, les troupes de Tito assassinaient 50 000 prisonniers et civils d'autres nationalités. Seuls des barbares traitent ainsi les prisonniers, même en temps de guerre. En août 1945, à Lizara, en Croatie, 5 000 enfants sont brûlés à mort par les titoïstes. D'après le rapport de la police secrète, de 1945 à 1951, plus de 6 millions d'individus sont passés par les camps de rééducation et de travail forcé. Il y a actuellement en Yougoslavie 30 camps de travail forcé dans lesquels prévaut la torture physique et psychique. Ce sont ces mains rouges de sang de leurs victimes par milliers que les chefs occidentaux osent serrer en leur souhaitant une bienvenue qu'ils refusent à d'authentiques combattants de la liberté. Tito ne fut pas le premier grand assassin ainsi honoré officiellement dans nos pays libres, ni Kennedy le premier chef d'État à leur rendre de tels honneurs. 4 ans auparavant, après Mikoyan, brillant second de l'Union soviétique, c'est le tout premier Khrouchtchev lui-même qui foulait le sol américain, accueilli par le président Eisenhower, reçu par de hauts financiers chefs de trust américains, fêté, promené, présenté à des auditoires, banqueté, précieusement protégé contre les manifestations possibles, fort explicables, de victimes qui ont réussi à s'évader de l'enfer communiste. Verdemin faisait à ce sujet dans son numéro du 1er septembre 1959 des réflexions également applicables à la visite de l'assassin Tito. Khrouchtchev, lui aussi, avait les mains rouges de sang. Sous Staline, il avait été le bourreau de l'Ukraine. Successeur de Staline, il fut le bourreau de Budapest en Hongrie. Le plus haut gradé de Satan sur la terre, il a foulé aux pieds la liberté et les croyances de milliers de millions de chrétiens dans la moitié de l'Europe. Tito est du même camp. L'invitation et la réception courtoise faite à de tels personnages sont une affront jetée à la face de tous les peuples qui gémissent sous la botte de Moscou et qui gardaient encore l'espoir que les pays libres s'intéresseraient à leur sort. Ils savent bien, hélas, que quand on reçoit l'assassin avec courtoisie, ce n'est pas pour lui reprocher ses crimes, ni pour plaider pour ses victimes. Si la déception, la désespérance et l'amertume envahissent ses cœurs, c'est le monde libre qui y perd et le monde communiste qui y gagne. D'autre part, la visite de ces hauts chefs communistes dans nos pays ne peut qu'encourager et stimuler le zèle des cinquièmes colonnes qui sapent de l'intérieur les valeurs chrétiennes et patriotiques des pays libres. Fortifier ainsi l'ennemi dans nos murs et offenser l'ami hors de nos murs, voilà certes une étrange manière d'améliorer nos positions. À l'occasion de la propagande organisée pour Khrouchtchev aux États-Unis en 1959, le cardinal Cushing, archevêque de Boston, déclarait « C'est comme si nous ouvrions nos frontières à l'ennemi dans une guerre militaire. Quiconque croit que nous puissions influencer Khrouchtchev uniquement en lui montrant notre démocratie à l'œuvre et notre grande fortune n'a aucune idée du mépris passionnant, un but de haine que Khrouchtchev et consorts professent à l'endroit de notre mode de vie. » Ce mépris, Khrouchtchev le prouva bien lorsque, peu de temps après cette visite triomphale pour lui aux États-Unis et celle qu'il fit pareillement dans la France de Gaulle, il se moqua effrontément d'Eisenhower, de Gaulle et de Macmillan, leur tournant le dos, leur claquant la porte au nez ou au derrière, en quittant avec éclat la conférence au sommet à Paris, après des injures jetées aux États-Unis à leur président à la face du monde entier. Quelle conclusion pratique pouvons-nous tirer de tout cela? Nous ne pouvons évidemment pas changer la politique de Washington plus que celle de Moscou ou de Pékin, mais écoutons ce que disait à ce sujet Monseigneur Ogaera, évêque exilé de Yuanling, qui avait goûté de la prison en Chine communiste. Le communisme, écrivait-il, avance pendant que le monde libre cède du terrain. Pourquoi ce fait humiliant? Pour moi, disait-il, la réponse est bien simple. Pendant mon séjour dans une prison chinoise, on ne cessait de nous harceler les oreilles des principes du matérialisme dialectique, signifiant qu'il n'y a ni Dieu, ni vie future, ni vertu, qu'une seule attitude d'esprit a de la valeur, la soumission au gouvernement du peuple. Or, dans l'enceinte même des États-Unis, les mêmes principes perfides sont exposés devant notre jeunesse américaine, que le mode de vie convenant à notre époque et la norme des bonnes manières sont déterminés par ce que la majorité décide. Et fait si outrageux à la morale chrétienne et si contraire aux enseignements du Christ que cela puisse paraître. Il y a la matière à réflexion pour nous aussi du Canada, même de la province de Québec. Les relâchements dans les mœurs, dans les modes, la poussée vers le laïcisme dans nos écoles, tout cela conduit au matérialisme, à la négation au moins pratique de Dieu, et laisse sans défense contre le communisme à l'affût de toutes les occasions pour gagner du terrain sans avoir à tirer un seul coup de fusil. Rappelons-nous aussi le message de Fatima. Il faut que les catholiques se convertissent, qu'ils disent des chapelets, qu'ils cessent d'offenser notre Seigneur pour que la Russie se convertisse et qu'on ait une paix véritable sur la terre. Ce message a-t-il été entendu? Les catholiques se convertissent-ils? Ne donnent-ils pas plutôt trop souvent dans la recherche du confort par-dessus tout, dans le matérialisme, dans l'oubli pratique de Dieu et de leur prochain qui souffre? Oui, il y a là pour chacun de nous matière à réflexion et à résolution.